IDFM Radio, le média valdoisien.
Sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val-d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Jacqueline Voraz avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe. Bâtir un avenir durable, une ambition de la communauté de communes Pleine-Vallée pour les 18 communes de son territoire. Fruit d'une collaboration entre les maires, les élus et les habitants, ce projet marque une avancée majeure et fait de 2025 une année phare pour les défis structurants de cette agglomération. Aujourd'hui, vendredi 25 avril, je vous invite à explorer ce projet visionnaire qui vise à transformer notre territoire d'ici 2035. Pour en parler, qui mieux que son président et son chargé de mission, transition énergétique et écologique, présent ce matin dans l'économie en direct sur IDFM Radio. Bonjour Luc Straiano.
Bonjour Madame la Présidente, bonjour chère Jacqueline, et puis encore merci de nous inviter, en plus interviewé par la Présidente. Christophe va peut-être nous faire une crise de jalousie, mais non, non c'est sa
J'espère
Présidente.
J'espère pas, encore, ce serait dommage.
Encore merci, c'est toujours avec plaisir que nous venons dans ces studios de cette radio. IDFM 98.00 que les Soiséens écoutent avec attention, et puis on a un Soiséen célèbre qui participe aux
c'est
émissions
vrai, oui.
Et nous en parlions tout à l'heure avant de rentrer dans ce studio, qui est un garçon remarquable, et puis nous avons aussi ici un garçon remarquable qui donne de sa personne, monsieur Quentin Revert, qui est notre chargé de mission développement durable. Je dis qu'il donne de sa personne parce que il s'occupe entre autres du plan vélo et que il emporte les stigmates puisqu'il a fait une mauvaise chute il n'y a pas très longtemps. Mais je veux dire, c'est une personne qui s'occupe du plan vélo, mais qui a un grand mérite, entre autres, mais un grand mérite à mes yeux, c'est de vivre en accord avec ses principes et ses convictions, puisque il vient depuis Paris en vélo. Quotidiennement, travailler à notre agglomération, à Soisy sous Montmorency, et ça mérite d'être salué, ces gens qui vivent en harmonie avec leurs convictions.
Merci en tout cas d'être dans nos studios. Je suis très heureuse de vous accueillir. Et donc je rappelle bien sûr que vous êtes le maire de Soisy-sous-Montmorency, vice-président délégué du conseil départemental et président de Pleine-Vallée. Et c'est à ce titre que ce matin vous êtes avec nous pour nous exposer la vision, les objectifs et les axes de ce projet très ambitieux pour votre communauté de communes. Alors je voudrais, donc vous venez de nous présenter Quentin Revert, merci. Et puis à nos côtés, nous avons également Madame Clémence Pizoc, responsable communication Pleine-Vallée.
Elle est là pour nous surveiller.
Bonjour Clémence. Alors bienvenue en tout cas à chacun d'être les invités en direct de l'économie en direct sur IDFM Radio.
IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Alors cher Luc Straiano, lors du conseil communautaire du 29 janvier, les élus ont adopté le projet de territoire 2025-2035 de Pleine-Vallée, établissant ainsi une feuille de route stratégique pour la prochaine décennie. Mais j'ai le sentiment que c'est un projet qui ne date pas d'hier.
Alors, ça ne date pas d'hier, et puis on était un peu comme Monsieur Jourdain, on faisait de la prose sans le savoir. Puis les esprits chagrins pourraient dire « Ah, encore du papier, encore un projet », alors qu'il y a déjà beaucoup de documents qui cadrent les actions de notre agglomération. Et donc, légitimement, cette question « Pourquoi élaborer un projet de territoire alors que, je le disais, on a des documents qui cadrent déjà bien les choses. Bon, le CRTE, le CSPD, le plan climat air énergie, le PLHI, plan local intercommunal de l'habitat, etc. Bon. Eh bien, cette volonté, c'était d'avoir une des orientations que l'on peut qualifier de stratégique. La tactique, c'est le court terme. La stratégie, c'est le long terme. De développement, et vous l'avez rappelé, chère Jacqueline, sur 10 ans, 2025-2035. Et quand on s'applique à fixer des orientations sur une durée aussi longue, on prend bien sûr des risques, parce que les éléments que nous avons aujourd'hui pour apprécier une situation et donc des priorités, eh bien, on sait pertinemment que ça peut changer au cours du temps. C'est pourquoi, eh bien, ce projet de territoire, il sera appelé à être revu, ce qu'on appelle maintenant des clauses de revoyure, qui est pas quelque chose de très élégant comme vocabulaire, mais bien pour l'adapter, il y aura peut-être des opportunités à saisir qui n'existent pas aujourd'hui. Il y aura peut-être des choses qui aujourd'hui apparaissent comme importantes et qui demain, pour des raisons qu'on ne peut encore soupçonner, ne le seront pas, etc. Et donc ce projet de territoire, c'est bien sûr d'abord un diagnostic, parce qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Et donc diagnostic et plan d'action. Alors ça a été un travail considérable. Je crois qu'il faut encore souligner la méthode et les participations actives et l'implication. Nos participants ne se sont pas sentis seulement concernés, ils se sont impliqués, que ce soit les membres du personnel de l'agglomération, les membres des personnels de nos 18 communes, les habitants de nos 18 communes et bien sûr les élus qui n'ont pas craint de mouiller la chemise. Et puis on a réussi à regrouper tout cela dans trois orientations principales que l'on peut encore qualifier de stratégiques. Et on a décliné une quinzaine de fiches actions. Moi, j'en compte 14. Alors ces orientations stratégiques...
On aimerait bien savoir si c'est 14 ou 15 quand même. C'est important.
Y a un débat là-dessus. Moi, je sais que c'est 14. Bon. Au départ, on avait dit 15. Et puis, en fait, il y en a deux qui étaient très... elles n'étaient pas jumelles, elles étaient siamoises. Donc, il y en a 14.
D'accord.
Voilà. Elle est taquine ce matin, Jacqueline. Oui, oui. Bon, reviens à nos axes stratégiques. Soyons sérieux. Encore une fois, ça correspond à un travail considérable. Et moi, je tiens à le souligner. Vous savez, on a tellement aujourd'hui de personnes qui parlent sans trop savoir... que lorsque on a la chance d'avoir autour de soi des personnes qui travaillent beaucoup, qui acceptent de se remettre en cause, qui découvrent des choses, qui prennent en compte des avis et des réalités qu'ils n'avaient pas même imaginées. Quand je dis ça, je parle aussi pour moi. Je veux dire, on progresse toujours en avançant. Et on se construit des opinions, on se construit... des lignes d'action à partir de la réalité. Il faut jamais nier la réalité, il faut jamais nier les faits. Il y a une formule qui dit il faut jamais nier les faits parce qu'après, à la fin, il se venge et il gagne toujours. Et ça, nous nous y appliquons. Alors, ça part d'un constat. Et la première orientation stratégique, c'est de préserver notre cadre de vie, puisqu'on a un cadre de vie d'exception et on souhaite le préserver par le biais d'une agglomération verte et vertueuse. Verte et vertueuse. La vertu n'étant pas que dans le vert. Et puis, alors ce que je rappelle, mais pour nous c'est tellement évident, c'est que notre agglomération, elle est conçue comme une coopérative de communes. C'est-à-dire que elle se décline avec les volontés des communes. Et animer, je préfère dire animer que présider une agglomération, c'est beaucoup plus compliqué que d'animer ou présider un conseil municipal. Parce que dans un conseil municipal, le maire, il est quand même le chef. Il est quand même le chef. Dans une agglomération, c'est un peu plus compliqué. Parce que, à l'évidence, chaque maire, nous on est 18, bon, disons, les 17 autres maires connaissent mieux leur commune que le président. Et donc, alors c'est difficile pour celui qui anime, mais c'est bien pour ceux qui en sort. Eh bien, les décisions sont co-construites. Et puis, même s'il y a des têtes mieux faites que d'autres, il y a toujours plus d'idées dans 18 têtes que dans une seule.
Bien sûr.
Mais ça demande un certain comment dirais-je, un peu de patience et puis un peu d'apprentissage aussi. Alors, il y a ce premier axe stratégique. Et là, nous n'avons eu aucune difficulté à nous mettre d'accord, non seulement sur les mots, mais surtout sur ce qu'il y a derrière les mots. Et on pourra y revenir tout à l'heure. Deuxième axe, de ce projet de territoire, c'est d'offrir aux habitants la possibilité de vivre et travailler autrement sur un territoire de proximité. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse, car je ne connais pas d'agglomérations qui ont consacré, ramené bien sûr au nombre d'habitants, autant de moyens au développement économique que l'agglomération Plaine-Vallée, Forêt de Montmorency. Et quand je dis cela, parce que vous avez des élus qui inaugurent, coupent des rubans, mais ils constatent une situation, bon, il y avait un PLU qui autorisait. Là, bon. Nous avons injecté aujourd'hui près de 40 millions d'euros directement dans des zones d'activité, les monts du Val d'Oise à Grolet, le parc technologique de Montmagny à Montmagny, comme son nom l'indique, en partenariat qu'on va renouer avec Paris 13. Nous sommes en train de revitaliser une friche commerciale qui était dans un état de délabrement absolu à Aizenville. Et nous avons réussi, il faut le souligner, à obtenir 2 millions d'euros de financement du fonds friche de l'État. Quand l'État met un peu d'argent au pot, si vous me permettez l'expression, ça mérite d'être souligné. Et ça aussi, et ça démontre tout l'intérêt de ce projet. Et donc c'est une agglomération qui a beaucoup misé sur le développement économique. Et c'est une des activités phares de l'agglomération Plaine-Vallée. Alors vous allez me dire, et pourquoi ? Vous savez que ce département, le département du Val d'Oise, est une poche de sous-emploi, puisque nous avons seulement, dans notre département, 0,6 emplois par actif. Et dans notre agglomération, dans nos 18 communes, la situation est encore plus grave, puisque nous avons un demi-emploi par actif. 80% de nos actifs travaillent à l'extérieur, et un peu plus de 60%, 66%, de nos actifs utilisent leur voiture, leur véhicule automobile pour faire le trajet domicile-travail et certains domiciles lieux d'études. Bon. Donc, effectivement, le fait de dire on va créer des emplois, alors, on ne va pas, soyons raisonnables, les chiffres le montrent aisément, nous n'allons pas pouvoir inverser la tendance et être un territoire où il y aura plus d'emplois que d'actifs. Non. Mais ce que nous souhaitons, c'est, dans la mesure de nos moyens, faire des efforts pour éviter d'aggraver ces proportions. Et c'est ce que nous faisons.
Et alors, avez-vous quelques leviers à nous citer pour renforcer cette économie ?
Alors, d'abord, c'est des actions avec nos services développement économique et aussi le service communication pour capter les acteurs économiques. Et aussi, il faut les attirer. Et une fois qu'ils sont là, il faut les fixer, il faut les conserver. Il ne faut pas seulement les séduire. Il faut se marier avec. Mmh. Et donc, c'est avoir un territoire économiquement attractif pour les entreprises. Alors, nous développons et nous continuerons à développer des partenariats économiques avec des actions bien sûr de communication, je l'ai déjà dit, mais aussi d'animation de réseau, club des entrepreneurs, etc., etc. On s'est aperçu que parfois des entreprises allaient chercher assez loin des partenariats qui se trouvaient à quelques kilomètres seulement et dans la zone. Nous sommes en train de réfléchir à la création d'un outil de portage d'actifs immobiliers, et ça, ça concerne le foncier. Et puis, nous avons terminé d'ailleurs une étude sur les zones d'activité économique afin d'affiner, de préciser leur vocation en fonction des objectifs et du parcours résidentiel des entreprises. En fonction des objectifs, pourquoi ? C'est parce que nous avons la chance d'être dans une agglomération avec des catégories socioprofessionnelles qui sont médium plus.
Oui.
Et même médium plus plus. Et donc, nous nous appliquons à créer des emplois dont nous serions heureux que nos enfants puissent les occuper.
Mmh. Voilà.
Bon. Si c'est pour créer des emplois qui vont contribuer à importer encore du personnel et à alimenter ce mouvement de balancier domicile-travail, nous ne sommes pas intéressés.
Alors, c'est plus
difficile.
C'est pas le but. Oui.
C'est plus difficile. Et évidemment, s'il y a de l'argent public qui s'y met, c'est que naturellement, les lois de l'économie ne le permettent pas. Donc, nous faisons de l'interventionnisme pour développer de l'emploi qualitatif. L'objectif, il est évidemment, vous l'avez deviné, de favoriser l'installation d'entreprises pour créer des emplois de proximité. Et quand on dit emploi de proximité accessible aux habitants, ça veut dire qu'ils correspondent aux qualifications de nos habitants. Après, pour offrir aux habitants la possibilité de vivre et travailler, il y a aussi la question du logement.
Alors même J'allais si, vous poser la question.
Même si nous ne sommes pas dans les prix dignes de l'Himalaya que l'on peut voir à Paris, où on m'a parlé des appartements à 17 000 euros le mètre carré à Boulogne-Billancourt, par exemple, ou à 16 000 euros à Issy-les-Moulineaux. Bon, nous, on est plutôt au tiers. Hein, les beaux, quand vous êtes à 6 000 euros le mètre carré dans des résidences neuves, c'est que vous êtes sur le haut de la fourchette. Et donc, nous appliquons, on a lancé des opérations, on a fait des logements, par exemple, pour jeunes travailleurs avec l'aide de l'agglomération à Saint-Gratien, où on a reconverti la maison Sainte-Geneviève, qui était une maison de retraite de la gendarmerie. On a fait ça avec le bailleur Séquence. Et puis, nous nous appliquons aussi à mobiliser les outils réglementaires, à être un peu plus savants pour faire face à la pression foncière. Et là, j'ouvre, si vous me le permettez, une parenthèse, parce que on dit que ça date du temps des Romains. Les dieux se moquent de ceux qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. Et là, je pense que si les promoteurs qui pleurent parce que le foncier est trop cher ne venaient pas taper à la porte des propriétaires de pavillons en leur offrant deux fois et demi le prix de leur pavillon pour acheter des terrains, et puis ensuite les mener en bateau avec des promesses de vente assorties de clauses suspensives qui font que finalement le promoteur dispose des terrains, et puis tant qu'il n'a pas complété le puzzle, eh bien c'est le vendeur qui est pieds et poings liés. Et puis à la fin, il lui dit « Bah écoutez, vous savez, la situation a changé, je ne peux pas mettre autant d'argent, et finalement, bah, je ne vais pas vous donner 100 pour votre pavillon, je vais vous donner 65, et n'importe comment, il vaut 50. » Voilà, ce sont des méthodes que je ne qualifierai pas, mais vous voyez à quoi je pense. Et donc, aujourd'hui, ces gens-là, bon, il y en a certains qui ne se portent pas bien, et tant pis pour eux, je ne vais pas pleurer sur eux, vous expliquent que ce qui fait obstacle à leur progression, c'est le prix du foncier, mais ce sont les principaux artisans de l'augmentation
c'est ça,
oui. du prix
c'est
du foncier.
C'est eux qui,
et donc,
qui faut, créent
il
la
faut
problématique.
Que nous nous mobilisions face à ces comportements. Et puis, pour favoriser le travail, c'est aussi encourager ce qu'on appelle le report modal avec des continuités douces, sécurisées. Et ça, il suffit pas de le dire, c'est très difficile parce que nous avons, nous, de ce point de vue, un territoire ingrat. La banlieue, vous savez, par des banlieues, c'est ce qui est laissé au banc. On était un peu les communs des châteaux. Bon, château étant Paris. Et donc, il y a le plan local des mobilités de pleine vallée, il y a le plan vélo, dont Quentin pourra parler tout à l'heure. Et donc, ça, c'est un travail que nous menons, continuité des pistes cyclables. Le plan vélo, qu'est-ce que c'est? Bon, Monsieur Quentin Revers en parlera mieux que moi, mais chaque commune a un plan vélo. L'agglomération va consolider et puis voir là où il est pertinent de faire en sorte que y ait des raccordements et aussi de veiller à prendre des mesures pour que ces voies cyclables, ces pistes cyclables, ces zones de partage ne soient pas sans arrêt des zones d'intersection qui sont autant de causes d'accident. Nous nous appliquons, alors je vais modestement citer ma petite commune de Soisy-sous-Montmorency, où nous nous appliquons depuis plusieurs décennies à avoir un paysage urbain, la notion de paysage urbain qui soit irréprochable. Alors j'ouvre la parenthèse. Bon, Soisy-sous-Montmorency est exemplaire dans le domaine, nous le savons.
Bien sûr.
Et donc, on ne peut pas avoir un paysage urbain irréprochable si c'est sale, s'il y a des papiers partout.
Oui,
si on se croit à Paris, dans certains coins, ça ne va pas. Si on commence à voir les rats qui courent, ça ne va pas aller non plus. Bon. Et donc, nous accompagnons les deux syndicats intercommunaux qui s'occupent de la collecte, du traitement des ordures ménagères. On travaille activement sur la lutte contre les dépôts sauvages. Et puis, il y a des actions de sensibilisation. Vous savez, on a encore, dans certains secteurs de nos communes, des personnes qui sont très loin de maîtriser les trois poubelles.
Il y a beaucoup de
couvercle verte, celle avec le couvercle jaune et celle avec le couvercle marron. Il y en a qui jettent encore les détritus par la fenêtre. Bon, donc là, il y a effectivement des actions de sensibilisation. Et puis, au-delà, ce sont les incivilités, parce que les dépôts sauvages, il faut les verbaliser et que. Et puis, alors, troisième axe, qui est de s'engager pour préserver encore, parce que vous voyez, quand on a réfléchi autour de ces tables rondes, on a pris conscience que nous sommes heureux et nous ne nous en rendons pas assez compte. On a des tas de pistes d'amélioration, mais à chaque fois, le mot qui est revenu, c'était préserver, conserver. Et donc, on est bien conscient que lorsque l'on sort un peu de notre territoire, que ce soit au nord, à l'est, à l'ouest ou au sud, bon, pas être désagréable, mais quand on va vers l'ouest, on va à Argenteuil, on commence par les coteaux, ça va, puis après c'est plus compliqué. Quand on va au sud, on tombe sur Épinay, quand même assez compliqué. Quand on va à l'est, on tombe sur Sarcelles, Villiers-le-Bel, Garges-lès-Gonesse. Pas très compliqué. Bon. Donc, on se dit que nous, oui, ça mérite d'être préservé. Et donc, il faut améliorer, et ça, c'est une prise de conscience. On est à 15 km de Paris, 15 km de Notre-Dame, et il nous faut améliorer l'accès aux soins pour les habitants de l'agglomération. Avant-hier, lundi de Pâques, j'amène un habitant qui ne pouvait pas se déplacer pour faire un examen. J'ai fait l'hôpital, j'ai fait une clinique, j'ai fait une deuxième clinique. Le service d'IRM était fermé le week-end. Voilà. On est à 15 km de Paris, oui. Et nous sommes dans un désert médical. Et donc, améliorer l'accès aux soins pour les habitants de l'agglomération, c'est bien s'engager pour le bien-vivre et la tranquillité des habitants. Voilà le troisième axe. J'ai pris cet exemple. Je pourrais, bien sûr, chère Jacqueline, en prendre d'autres. Alors, vous le saisissez. Je veux dire, ça apparaît d'une manière très claire. L'ambition est grande. Mais je crois que c'est un peu comme un planning quand vous démarrez un chantier. Vous avez des gens qui disent « Ah, ça ne sert à rien enfin, ». Encore des esprits faibles qui disent « Ça ne sert à rien de faire un planning parce que, il va falloir le modifier ». Ah oui, il va falloir le modifier. Et il est évident que notre projet de territoire, nous avons fixé des objectifs. Il y en a qui seront atteints. Il y en a qui seront partiellement atteints. Et il y en a d'autres qui seront très difficilement entamés. Bon. Mais cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas consacré des efforts pour que ces chemins soient parcourus. Et
la volonté est là.
L'important, c'est d'abord de savoir où l'on va et d'avoir réussi d'une adhésion, parce que le document qui a été élaboré, encore une fois, je tiens à saluer l'esprit de co-construction qui l'a animé et qui a pu être une réalité grâce à l'implication de tous les participants, et que ce document ait été adopté à l'unanimité par le Conseil communautaire est déjà un signe très encourageant. Bon, j'avais eu à le défendre, mais je n'avais pas eu beaucoup d'efforts à faire. Je veux dire, encore une fois, ces objectifs, trois objectifs stratégiques, 14, Jacqueline, fiches d'action à mener, ont été considérées comme prioritaires. Pardon. Et puis, je dirais 14 objectifs, c'est déjà beaucoup, mais on n'est pas sur un inventaire à l'après-vert, et on s'est fixé des objectifs à atteindre. Et je pense que sur les 10 années qui s'ouvrent à nous, nous réussirons à en atteindre la majorité, et nous réussirons à faire du territoire de notre agglomération ce territoire privilégié, pas au sens des privilèges indus, mais au sens de celles et de ceux qui savent conserver, préserver ce qui mérite de l'être. Et puis, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister encore, c'est que nous nous appelons communauté d'agglomération Plaine-Vallée, et en baseline, comme disent les communicants, je parle sous le contrôle de Clémence, Forêt de Montmorency. Et ce qui a fait que nous avons ajouté ce mot, ce n'est pas les 2200 hectares de la forêt de Montmorency. C'est lorsque on a eu la fin du premier confinement, 15 mai 2020. Nous avons vu arriver des habitants, soit de Paris intramuros, soit de Paris première couronne, dans nos villes. Et ces personnes-là, elles ont vécu le télétravail, monsieur, madame, les enfants qui suivaient des fois des cours à distance, même s'ils avaient un bel appartement fort coûteux de 80-90 mètres carrés, ils ont quand même franchi les limites du travail à distance. Ils sont arrivés chez nous. Alors, ça a été razzia, au mois de juin 2020. Tout ce qui était pavillon, villa avec jardin, appartement avec belle terrasse ou grand balcon, tout ça, c'est parti, tout le stock, par ces foyers qui avaient un fort pouvoir d'achat, puisque un appartement, comme je le disais tout à l'heure, à Paris ou dans la première couronne, c'est des prix au mètre carré très élevés. Et quand on a échangé avec eux, la chose qui les a la plus frappés, c'était la proximité de la forêt. Et pour nous, alors moi qui suis un régional de l'étape, quand j'étais enfant, bon, le jeudi, c'était le jeudi, il n'y avait pas école. Hein. Maintenant, c'est le mercredi. Donc le matin, on allait au catéchisme. Et l'après-midi, on allait se promener en forêt. On allait en forêt, puis bon, la forêt de Montmorency était moins fréquentée qu'aujourd'hui. On y voyait des lapins, on pouvait y voir de temps en temps des chevreuils, on y ramassait des châtaignes, on y allait, il y avait des coins à cèpes aussi.
Du muguet. Ouais.
Voilà, bon, il y avait du muguet. Bon. Enfin, on allait plutôt l'acheter chez le fleuriste, c'était moins fatigant. Et pour nous, ça allait de soi. C'est quelque chose qui... Et on n'en avait pas assez conscience. Et c'est cette formule, nous sommes heureux, nous étions heureux, et nous ne nous en rendions pas assez compte. Et si je voulais, moi, mettre une baseline à notre projet de territoire, c'est nous sommes heureux, appliquons-nous à le rester, à nous en rendre compte.
Oui, c'est une belle formule, c'est une belle formule. Merci infiniment, Monsieur Luc Straiano, donc président de Pleine Vallée, pour cet éclairage. Alors moi, je peux vous poser quelques questions par rapport à tout cet éclairage.
Je crains que vous soyez là pour ça.
Voilà.
Pour me mettre sur un grill.
Vous avez ce qui a vraiment, je pense. Aussi encourager cette vision globale de ce projet Pleine Vallée 2035, c'est les conséquences du changement climatique.
Bien évidemment. Je veux dire, on se rend compte, qu'on atteint des températures très élevées. On revient. On a installé dans certaines communes. Des brumisateurs, on fait des îlots de fraîcheur. Il y a le retour de la verdure qui compte aujourd'hui encore plus qu'hier. Je pense qu'on va voir revenir ce qui a disparu, mais vous savez, les arroseuses municipales.
Oui.
Moi, j'ai connu dans mon enfance les arroseuses municipales. Bon, c'est un principe tout simple, c'est la chaleur latente de vaporisation de l'eau. Bon, on fait tout ça si on a la chance d'avoir quelque chose dans le midi. Quand on veut déjeuner sur la terrasse, on commence par l'asperger, hop, et l'évaporation de l'eau, on gagne tout de suite 2-3 degrés. Bon, dans nos rues, je pense que... Et puis on a la chance dans cette d'être dans un secteur qui n'a pas de stress hydrique, de pression. On n'a pas de manque d'eau. Je veux dire, c'est le résultat de l'histoire. On a été malmené. Puisque Paris a été récupéré toute la bonne eau jusqu'à 150 km à la périphérie, en captant pratiquement toutes les sources. Et donc, nous, ils nous ont laissé deux rivières et un fleuve. Et on a su, à partir de ces sources d'alimentation, créer une eau de grande qualité. Et donc, on n'est pas en manque et on arrive à avoir de l'eau. En plus, lorsque c'est pour faire de l'arrosage qui ne revient pas à l'assainissement, alors là, il y a... Il n'y a pas les taxes d'assainissement, donc l'eau est presque 3 fois moins chère.
Oui.
Donc ça coûte arroser les rues. C'est, je parle sous le contrôle de Quentin Revers, c'est beaucoup mieux que d'avoir un dispositif de climatisation. Parce que vous faites du froid avec du chaud. Dans une rue où tous les bâtiments sont climatisés, vous avez ça par exemple... Aux États-Unis, vous avez toutes les exhausts, comme ils disent, enfin, toutes les évacuations des climatiseurs qui vont dans la rue. Mmh. Résultat, la rue, elle prend 4-5 degrés.
Oui. Donc,
avec l'évaporation de l'eau, c'est un changement d'état. L'eau liquide qui passe à l'eau vapeur. En plus, ça humidifie un peu l'atmosphère. C'est bon pour tout le monde. Et là, vous gagnez, bon, on va pas vous refaire des cours de thermo, mais 520 kilocalories par kilo d'eau qui s'évapore. Donc ça, c'est des frigorifiques.
C'est une réalité.
Et effectivement, le changement climatique, on s'en rend compte. Alors, sur les excès, on a toujours eu des inondations, on a toujours eu des pluies torrentielles. Ce qui a changé, me semble-t-il, c'est la fréquence. Mmh. C'est la fréquence. Sur l'intensité
des phénomènes.
Des phénomènes. Bon, moi, j'ai une carte postale de Soisy, où il y a des gens qui font de la barque place de l'hôtel de ville. Bon, donc ça existait.
Ah oui, c'était. Vous avez l'année.
Je pense que c'est au moment de la grande crue de la Seine, 1910.
Ah oui. Alors,
oui, Quentin, on arrive dans un... Quentin commence à s'énerver sur son siège. Il faut qu'il parle.
Je vous donne la parole. Je voudrais juste revenir, Monsieur Striaiano. Vous parliez de l'eau, donc et visiblement, ce n'est pas un problème dans notre région, mais il va quand même falloir sensibiliser les habitants à ne pas la gâcher, cette eau.
C'est un bien précieux.
Ça va faire partie d'une pédagogie.
Il ne faut pas la gaspiller. Mais ce n'est pas parce qu'on va économiser un mètre cube d'eau à Enghien-les-Bains que l'on va apporter un litre d'eau dans les Pyrénées-Orientales.
Bon, c'est clair.
Là, il a bien plu. Moi, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas plu dans les Pyrénées-Orientales. Là, il a bien plu, les nappes se sont reconstituées, les lacs ont retrouvé là à peu près leur niveau et les rivières coulent maintenant avec des débits qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Mais, je veux dire, moi j'ai eu un entretien téléphonique avec M. le préfet il y a 2 ans quand il a mis des restrictions d'eau. Alors, il met des restrictions d'eau. Il empêche les gens d'arroser leurs fleurs. Bon. Et je l'appelle, je lui dis, écoutez, M. le préfet, pourquoi ? Il dit, ben vous savez, c'est on manque d'eau. Oh, je lui dis, non, écoutez, monsieur le préfet, en Île-de-France, on ne manque pas d'eau. Bon, je suis d'accord avec vous, l'eau c'est un bien précieux, ça coûte cher, faut pas la gaspiller, mais on ne manque pas d'eau. Bon, et puis il revient, il me dit, ah oui, vous avez raison, on manque pas d'eau, mais c'est pour donner l'exemple. Mais on donne pas l'exemple en enquiquinant les gens. Moi, je crois que ce qui compte, c'est pas la décision qu'on prend. On dit, c'est de la com, c'est du faire savoir sans savoir faire. Et on n'a pas le droit, je veux dire, d'handicaper. Imaginez, là, pauvres gens, ils ont cultivé leur potager, puis on leur dit, vos salades, c'est foutu. Pour rien. Si le fait de ne pas arroser les salades, ça permettait d'avoir de l'eau courante au robinet dans les villages, à l'époque, des Pyrénées-Orientales. Je parle de ce département parce que je le connais.
Vous le connaissez bien.
Les autres, j'y suis né. Bon, mais d'accord, et je serai le premier à dire, il faut le faire. Mais les actes gratuits, quand c'est de la générosité, c'est bien. Mais les actes gratuits, quand ça confine à la bêtise, c'est mal.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'écologie répressive, qui n'est pas toujours très appréciée.
Mais attendez, la punitive. Elle peut être punitive et puis correspondre à quelque chose. Bon. Aujourd'hui, M. Quentin Revert en parlera, mais quand on regarde les émissions, là, pour le plan climat, air, énergie territoriale, la principale source, c'est le domestique. C'est le chauffage domestique. Comme à Paris. Vous savez que rien que la CPCU, le chauffage urbain parisien, émet plus de toxiques dans l'atmosphère que tout le périphérique. Et on s'énerve sur les automobilistes, les automobiles, alors que s'il y a un domaine où il y a eu malheureusement une progression du trafic automobile extraordinaire, mais pour ce qui concerne les progrès qui ont été faits sur les voitures, et particulièrement les moteurs à combustion interne, on a réduit les nuisances par 4.
Ouais.
Entre le moment où je faisais mes études, j'étais à l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, et aujourd'hui, vous savez ce qu'il y avait dans nos manuels en 1980, il y avait moteur à combustion... 10 litres au 100 par litre de cylindrée. Eh bien, aujourd'hui, une voiture de 2 litres, elle fait 5 litres au 100.
Oui.
Vous avez progressé...
Divisé par 2.
Par 4.
Par 4, oui.
1 litre, 2 litres par 4. Et le traitement des effluents a beaucoup progressé. Donc, vous dire, il y a eu un progrès énorme. Sur le chauffage urbain, je ne crois pas qu'il y en ait eu. Bon, on est passé du fioul au gaz, on avait après le fioul bastonneur en soufre, etc. Mais pour ce qui concerne les émissions de CO2, ramenées à la production de kilowatts, le chauffage urbain a progressé avec les chaudières à gaz, à condensation, on récupère la chaleur des fumées, etc. Au début, on a eu des gros soucis de condensation aussi là-dessus, avec la condensation et la corrosion, mais il a fallu adapter un peu le combustible. Bon. Je crois que je m'égare un peu.
Mais vous êtes en train de nous faire un cours, là. Alors, Quentin, vous vouliez prendre la parole.
Je voulais Quentin préciser Robert. Un petit peu. Alors déjà, je me présente. Donc, je suis chargé de mission plan climat air énergie territoriale pour l'agglomération Plaine-Vallée. Ça fait maintenant 4 ans que je suis ici. J'ai pu, avec M. Striano et l'ensemble des élus de l'agglomération, coordonner l'élaboration et la rédaction du plan climat air énergie territoriale qu'on va appeler plan climat maintenant pour que ça soit un peu plus simple.
Oui.
Puisque le problème en général dans nos domaines respectifs, c'est qu'il y a énormément d'acronymes.
Oui, PCAET.
N'hésitez pas à me reprendre et à me demander ce que ça veut dire parce que ça peut sortir un peu tout seul.
Oui.
Et donc effectivement, le plan climat, comme le disait Monsieur Striano, c'est à la base surtout un outil stratégique de planification du territoire qui se fait à l'échelle du coup des 18 communes. Le changement climatique, comme il a été dit, c'est un sujet qui ne peut pas être uniquement traité à l'échelle de la commune, à l'échelle individuelle. C'est quelque chose qui doit se faire tous ensemble, en concertation, et qui doit se faire aussi et surtout sur un diagnostic qui est le plus précis possible, le plus précis, le plus efficace, le plus informatif. Et donc pour ça, il a été réalisé un très gros diagnostic avec le bureau d'études qui nous a accompagnés, qui s'appelle Ecodev, avec l'ensemble des 18 communes, les agents, j'insiste dessus, comme le disait M. Striano, effectivement, on a la chance d'avoir des agents dans les communes et à l'agglomération qui sont extrêmement compétents, extrêmement motivés. Et donc du coup, on s'est tous mis autour de la table pour justement, dans la concertation, dans l'échange, avec une volonté de pragmatisme, comme le disait effectivement M. Striano, je pense que si on a pu emmener tout le monde sur ce plan climat, c'est parce qu'on a montré qu'il y avait des solutions qui étaient très concrètes, qui, au-delà du côté concret, avaient des vrais impacts positifs sur les habitants. On parle de cadre de vie, on parle de préservation, etc. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'effectivement, la transition énergétique et écologique, comme j'aime à l'appeler, plutôt que le développement durable, ça reste quand même quelque chose qui est censé préserver le cadre de vie, qui est censé améliorer la qualité de vie des habitants. Quand vous créez des espaces verts, quand vous améliorez la qualité de l'air, quand vous réduisez les nuisances sonores, vous réduisez la pollution des sols, etc. C'est censé quand même améliorer la santé des habitants, leur bonheur, leur sentiment de bien-être, etc., etc. Donc le plan climat, on l'a vraiment vu comme ça, on l'a saisi comme ça et on a décidé de partir à fond. L'objectif du plan climat, c'est de diminuer les consommations d'énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer localement les énergies renouvelables, améliorer la qualité de l'air et enfin adapter le territoire au changement climatique, sachant que tout ça, ça se base sur...
Parlez bien en face du micro, Quentin.
Pardon, excusez-moi. Et donc du coup, l'idée, c'est de se dire que c'est un plan d'action sur 6 ans, qui a donc été voté officiellement le 12 février 2025. Après donc près de 3 ans et demi d'élaboration. Alors, on n'a pas attendu de voter le plan climat pour commencer à se lancer. Effectivement, comme le disait Monsieur Striano, il y a le projet de territoire qui a été lancé, il y a tout le contrat de santé, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à côté. Et nous, du coup, on est en train de mettre en place, en fait, là depuis maintenant 2-3 ans, des actions à la fois concrètes, mais aussi qui ont une visée de coordination et de mise à l'échelle en fait de l'agglomération, puisque l'idée, c'est aussi de travailler avec l'ensemble des communes, mais aussi les agglomérations qui sont autour de nous. C'est le plan vélo est un très bon exemple. On ne va pas y aller tout seul sur le changement climatique, on ne va pas y aller tout seul sur l'aménagement, c'est quelque chose qui se fait en concertation. Et du coup, il faut, pour cela, faire le meilleur diagnostic possible et s'intéresser à ce qui se passe un peu à droite à gauche autour de nous.
Alors, il y a eu vous en avez parlé, il y a eu des objectifs chiffrés. Je vous laisse nous les citer quand même parce que je pense que c'est assez parlant.
Alors, les objectifs nationaux, en fait, en termes de neutralité carbone, ils découlent, pour la faire un peu simple, de la COP21 qui s'est déroulée à Paris à l'époque. S'en est suivi un certain nombre de lois, notamment la loi énergie-climat, la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Et qui ont fixé les objectifs nationaux. Donc là, on a notamment la neutralité carbone en 2050, la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, parce qu'à chaque fois, c'est toujours pareil. On se met des jalons. Donc l'objectif, c'est 2050. On se met des jalons à 2030. Et on se base sur les émissions de 1990,
oui.
Pour information. Pour information, d'ailleurs, ça, c'est pour les objectifs nationaux. Nous, sur notre plan climat, toutes les données qu'on a utilisées, elles sont depuis 2008.
D'accord.
2018, pardon, pour des raisons évidentes, c'est qu'en 2020, il y avait le Covid, 2019, c'était incomplet, et donc du coup, on a préféré avoir une année qui était pleine pour pouvoir se baser là-dessus. Sur la réduction des consommations énergétiques, il faut les réduire de 50% à l'horizon 2050, donc ça, c'est toujours sur les questions nationales. 40% de la consommation énergétique primaire, notamment parce que ce qu'on sait pas en France, c'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier, c'est qu'effectivement, si la production énergétique française est majoritairement et très majoritairement nucléaire, donc de l'électricité, et donc bas carbone, elle est extrêmement intéressante. Mais la production, la consommation finale, pardon, de l'énergie en France aujourd'hui, c'est encore 65% de fossiles. Donc de gaz et de pétrole. Donc il faut réduire en priorité tout ça. Avec bien évidemment du nucléaire qu'il faut continuer de développer. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, et c'est la chance qu'on a, c'est que les énergies renouvelables aujourd'hui ont atteint ce qu'on appelle la maturité technologique. Donc on est capable de les recycler, on est capable de les extraire de façon beaucoup moins impactante qu'on le faisait avant. Et on peut les déployer beaucoup plus rapidement que d'autres technologies, notamment le nucléaire aujourd'hui, où quand on voit ce qui peut se passer à Flamanville, effectivement, c'est peut-être plus simple de déployer un parc photovoltaïque, même si c'est bien évidemment, et je parle sous le contrôle de M. Striano, pas la même puissance qu'on va déployer. Donc voilà, donc en tout cas, l'objectif de ce plan climat, c'est aussi de développer les énergies renouvelables et notamment d'avoir une part d'ici à 2030 de 33% de consommation finale. Et puis à terme, bien évidemment, d'aller de plus en plus haut. Et nous, on s'est fixé des objectifs un peu plus élevés sur le plan climat. Mais en tout cas, c'est dans ce cadre-là que nous, on rentre. Et après, l'objectif, quand on fait un plan climat, bah, c'est de se baser sur un diagnostic, de voir d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre, d'où viennent les consommations d'énergie sur notre territoire. Et ça, je vais vous dire, du coup, chez nous, parce que pour le coup, chez nous, c'est assez marquant.
Oui.
Et c'est très... On a vraiment un territoire qui est très, très impacté, en fait, par son caractère résidentiel. Et donc, du coup, bah, nous, ce qu'on va faire avec le plan climat, c'est qu'on va voir d'où viennent les émissions, d'où viennent les consommations, et ensuite, on va agir par rapport à ça.
Malgré la proximité de la forêt.
Tout à fait. Alors en plus, je voulais en parler tout à l'heure parce que la forêt, alors je dis ça avec le sourire, mais c'est pas drôle. La forêt de Montmorency, pour le coup, elle est touchée par le changement climatique.
Oui.
Et je trouve que c'est un très bon exemple, en fait.
Maladie de l'encre.
Exactement. Des conséquences du changement climatique sur le territoire et notamment sur la biodiversité et sur les espaces verts et les écosystèmes. C'est qu'effectivement, la forêt de Montmorency, comme le disait M. Sreyano tout à l'heure, c'est un élément vraiment constitutif du territoire. C'est au-delà du nom dans l'agglomération, c'est pour beaucoup d'habitants leur jardin, en fait. Leur jardin, leur espace. On l'a vu pendant le confinement aussi, où elle a été extrêmement utilisée, voire trop d'ailleurs. L'ONF nous a rapporté qu'elle a été sous tension, en fait.
Ah,
parce
oui.
que ce qu'il faut savoir, pour information, c'est que quand vous vous baladez en forêt, le sol de la forêt, en fait, c'est un sol qui est très, très spécifique, très fertile, très, très délicat. Et qui, pour pousser et pour être efficace et faire notamment son rôle de séquestration carbone, entre autres, il faut qu'il soit pas impacté par l'extérieur. Et donc, notamment, il ne faut pas marcher dessus. Et donc,
ça.
Il se trouve que quand vous avez eu le confinement avec littéralement des dizaines de milliers de personnes qui se déversaient chaque week-end sur la forêt, et ben, les gens sortaient des sentiers. Et c'est pour ça qu'on a des sentiers en forêt, c'est pour justement préserver ce qui est hors des sentiers. Et il faut savoir que quand vous marchez sur ce sol-là, avec votre vélo, avec vos pieds ou avec votre vélo, etc., vous allez mettre près de 100 ans, le sol va mettre près de 100 ans à se reconstituer. Donc ça a un vrai impact,
fait.
Oui. Donc la forêt de Montmorency, déjà de base, il y a ces tensions-là. Ensuite, la deuxième chose qui est extrêmement importante à avoir en tête, c'est qu'effectivement, à cause du changement climatique et de la maladie de l'encre, donc la maladie de l'encre, c'est un champignon, en fait, qui va s'attaquer qu'à un type d'arbre. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant de l'élaboration et de la construction de la forêt de Montmorency, enfin à l'époque elle a été créée, mais c'est pas une forêt primaire, en fait, la forêt de Montmorency, comme on pourrait penser quand on se balade à l'intérieur avec ces arbres absolument magnifiques qui sont immenses, on se croirait à l'ère préhistorique. En fait, non, pas du tout. Elle date du XVIIe siècle, pardon. Elle a été plantée sous les ordres de Colbert et elle était là à la base pour pouvoir alimenter les chantiers navals de Saint-Nazaire et du Havre de la marine française.
D'accord.
Et donc, vu qu'on s'en est servi pour pouvoir planter des arbres, on a choisi un certain type d'arbre, en l'occurrence des châtaigniers, qui, je suppose, avaient une valeur qui permettait de pousser plus vite et avoir une bonne résistance pour la flottaison.
Du bateau, oui.
Exactement. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a aujourd'hui la forêt de Montmorency est à peu près peuplée à 80% de châtaigniers. Sauf que la maladie de l'encre, le problème, c'est que c'est un champignon
Elle
qui s'attaque exclusivement aux châtaigniers. Et donc, ce qui se passe dans ces cas-là, et c'est pour ça que le changement climatique met toujours en évidence ce genre de choses, c'est quand on manque de diversité, notamment en termes de biodiversité et d'écosystèmes, et ben, ils sont beaucoup plus sujets exactement à ce type d'agression. Et donc là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a 60% de la forêt de Montmorency aujourd'hui qui est touchée par la maladie de l'encre. Et donc, on a l'ONF qui réalise très régulièrement des coupes, ce qu'on appelle des coupes rases, qui sont en fait des coupes sanitaires. Parce que les arbres et les châtaigniers, ils meurent. Et quand les châtaigniers, ils meurent et les arbres, ils meurent, qu'est-ce qui se passe? Les branches, elles tombent. Et donc, si jamais les branches tombent sur des gens, c'est pour l'ONF, c'est pour la GO, c'est pour tout le monde, etc. Et puis surtout, c'est des gens qui meurent.
C'est dangereux.
Ils sont blessés, c'est dangereux, etc. Donc, l'ONF a ce travail un peu ingrat de coupe vis-à-vis de tout ça. Donc, je rassure la population parce qu'il y a eu énormément de protestation à raison, forcément, parce que la communication n'a pas forcément été toujours très très efficace, on va dire, de la part de l'ONF. Et donc, du coup, forcément, quand vous arrivez, vous sortez de chez vous, vous voyez un paysage qui ressemble à un cratère de lune. Vous vous dites, oui, effectivement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé à ma forêt. Sauf qu'en fait, bah, derrière, si l'ONF a fait tout ça, c'est parce que cette zone-là était particulièrement touchée par la maladie de l'encre et qu'on avait des risques de chute des arbres, etc., etc. Donc voilà, ce qui est très intéressant avec la forêt de Montmorency, c'est que c'est vraiment un super exemple, un mauvais exemple, entre guillemets, des conséquences directes qu'on n'a pas forcément en tête du changement climatique sur le territoire. Oui. La maladie de l'encre, si elle prolifère sur la forêt, c'est parce qu'elle prolifère dans les conditions de changement climatique.
Pardon. Une seconde. Non, c'est pour...
L'extrait, Yano.
C'est par rapport à l'Office national des forêts, parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour cet établissement et les membres et son personnel. Et j'ai toujours un peu de mal quand je vois certains de mes collègues élus qui donnent des leçons de gestion du domaine forestier à ces personnes. Alors, il est exact, et Quentin Revers vient de le dire, c'est un service d'État et qui a subi des cures d'amaigrissement redoutables. Il y a quelques décennies, l'ONF était dans notre pays une institution. Aujourd'hui, ils ont très peu de moyens et les collectivités locales viennent en aide à l'Office national des forêts. Et effectivement, j'ai compris, mon père avait quelques forêts, donc j'ai une petite culture et je suis assez réceptif à leurs explications. En plus, ils racontent pas d'histoire. Ça veut dire s'ils disent les choses comme elles sont. Et ils ont des moyens très réduits. Et effectivement, la modicité de leurs moyens ne leur permet pas de faire une communication de qualité. Mais si leur communication n'est pas de qualité, c'est parce qu'ils ont des priorités. Leur priorité, c'est effectivement l'entretien de la forêt, qui sont confrontés à des défis très importants et qui consacrent l'essentiel de leurs moyens à leur mission la plus importante. Et moi, je voudrais, encore une fois, c'est facile de dire quand on ne sait pas, de dire « Oh là là, tous ces arbres coupés, c'est scandaleux, ils les ont coupés pour les vendre, pour faire du pognon, et tout patati, enfin, on entend tout ça. Bon, » c'est comme dans nos communes, quand on a un arbre qui est malade, on le coupe. On le coupe tout de suite puisqu'on a peur. Et puis, vous savez,
oui,
vous savez ce que je fais maintenant, oui. Une fois que j'ai coupé l'arbre, je fais une photo. Et on voit que le tronc est creux. Et puis, on fait une photo avec le journal du jour, à côté. Vous savez, pour montrer que ce n'est pas une photo qui resserre à plusieurs... Parce que, il y a quand même des... Alors, et je crains que ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui sont tous sauf sociaux d'ailleurs, et développer un peu cette science infuse et spontanée de l'habitant qui assimile pas toujours ce qui est dit. En plus, je veux dire, sur la caractéristique des données de ces réseaux, c'est que il y a des choses établi, tout à fait vrai et tout à fait réfléchi, et d'autres qui sont complètement fantaisistes et que l'on n'a pas la capacité de faire le tri parce qu'on n'a pas le recul nécessaire. Donc tout ça pour dire que l'agglomération travaille en partenariat avec l'ONF. On a d'ailleurs développé ce partenariat. On a une association sur les trois forêts, etc. Et que ces personnes méritent plus d'être encouragées que d'être critiqué.
Oui, je comprends. Merci pour cette remise à niveau de l'ONF.
Pour appuyer tout ce que vient de dire M. Striano, moi, une des premières choses que j'ai voulu faire au moment où on a élaboré le plan climat et notamment où on a restitué le diagnostic auprès des élus, c'était d'impliquer l'ONF justement dans cette restitution pour qu'ils puissent échanger directement avec les élus et leur faire comprendre, entre guillemets, ou en tout cas leur donner ces informations-là. Comme ça vient d'être dit, sur le fait que c'est des gens qui sont passionnés, qui sont extrêmement investis, extrêmement compétents, mais qui sont aussi sous tension du fait de ces difficultés budgétaires notamment. Et donc voilà. Et sinon pour revenir sur le plan climat et sur le diagnostic, pour vous expliquer un petit peu, nous ce qui est intéressant sur le territoire, c'est que comme le disait tout à l'heure en introduction Monsieur Striano, on est sur un territoire qui peut se qualifier un petit peu de résidentiel.
Oui.
Et donc en termes de consommation d'énergie, on a 59% des consommations d'énergie sur le territoire qui sont liées au secteur, ce qu'on appelle le secteur résidentiel et tertiaire. Secteur résidentiel tout court, d'ailleurs, pardon. Ensuite, on a les transports routiers à 17%, et ensuite, on a le tertiaire à 22%. J'en profite pour dire que on dit souvent, on pense souvent que les émissions augmentent, enfin continuent d'augmenter, etc. Et c'est pareil pour la qualité de l'air, c'est pareil pour la consommation. Globalement, ça baisse. Depuis une vingtaine d'années, ça baisse, d'accord ? Il faut savoir que nous, en Île-de-France, la qualité de l'air, par exemple, depuis 2005, elle a augmenté. Elle s'est améliorée. Elle s'est drastiquement améliorée. Vous avez beaucoup moins de soufre, par exemple, dans l'air, etc. Donc ça montre...
Je crois même que la France est plutôt bien classée de ce côté-là. Hein.
On s'est fait taper dessus une ou deux fois, mais
au niveau de la planète. Hein.
Mais en tout cas, on a pas mal. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en ayant fait assez peu d'actions directement sur ça, mais via l'efficacité des moteurs, de la rénovation énergétique, de plein de choses, en fait, de plein de choses, on a réussi à réduire.
Une prise de conscience individuelle.
Et puis après,
hein,
il y a aussi des prises de conscience, des éco-gestes, etc., etc. On a réussi à réduire nos consommations d'énergie et nos émissions de gaz à effet de serre. J'insiste dessus, on a réussi à les réduire. Le seul secteur chez nous qui a augmenté sur cette période, c'est le secteur tertiaire. Et comme j'aime à le dire, ça prouve une chose, ça prouve que l'activité politique, que la volonté politique des élus de l'agglomération, elle a eu une efficacité. Parce que derrière, ça montre que le secteur économique s'est développé. Donc ça montre que quand les élus veulent agir sur des sujets et prennent à bras le corps ces sujets-là, on peut
ça
avoir
fonctionne.
Des effets. Exactement, tout à fait. Donc moi, le message, il est positif. C'est de dire, là, en fait... On a réussi à agir sur le développement économique. On peut faire la même chose sur l'environnement. On a des opportunités. On a la chance d'avoir une agglomération et un territoire qui est extrêmement intéressant. On a plein de ressources. On a la forêt de Montmorency, mais la forêt, c'est une chose. Il y a plein de, d'autres espaces. On a un territoire qui est extrêmement divers. Le sud est très, très urbanisé, très dense, avec des problématiques notamment au niveau de chaleur. Le nord, pour le coup, c'est beaucoup plus agricole, périurbain, avec des paysages qui sont beaucoup, beaucoup plus étendus, un horizon plus lointain, avec cette forêt, du coup, au milieu qui coupe un peu tout ça. Et donc, nous, avec le plan climat, avec le plan vélo, l'objectif, ça a vraiment été de créer un espèce de projet de territoire un peu version alpha, quoi, pour accompagner les communes et donner un petit peu des orientations et puis des actions aussi très concrètes. Je reviens là-dessus. L'objectif, c'est que nous, on a 43 actions. Ces 43 actions, elles sont quand même... ça va des études à des actions très, très concrètes. Voilà.
Très bien. Alors, donc, réduction de la dépendance aux énergies fossiles, rénovation énergétique des bâtiments.
Tout à fait.
Et alors, on attaque le plan vélo, Quentin ?
On peut attaquer le plan vélo, si vous voulez.
Il n'est pas rancunier, il attaque le plan vélo.
C'est ça. C'est littéralement la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai eu mon accident. Donc voilà. Mais donc le plan vélo, c'est effectivement une des actions du plan climat, du PCAET. C'est la fiche action, je ne l'ai plus en tête, mais c'est dans les 20. On a une demi-douzaine de fiches actions qui sont en rapport avec la mobilité. Comme je vous l'ai dit, en termes de consommation d'énergie, c'est 17% du transport routier. Et après, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, si je reprends mes petits chiffres, c'est quand même 25%. 25%, et si on rajoute les autres transports, c'est près de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est le deuxième secteur après le résidentiel sur le territoire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un secteur sur lequel il faut adresser cette problématique et essayer de trouver des solutions. Nous, aujourd'hui, sur ces questions-là de mobilité, en fait, on n'a pas attendu de faire le plan vélo. On a déjà fait, je me permets de le dire, d'autres actions en amont. Notamment, on a lancé des ateliers d'écomobilité scolaire. Parce que l'objectif, quand vous faites ce genre d'action et quand vous agissez sur le plan climat, en fait, c'est qu'il y a deux volets. Il va y avoir un volet sensibilisation, de formation, en fait, techniquement, des habitants et puis de l'ensemble des personnes du territoire. Et puis, vous allez avoir après des actions plutôt d'aménagement, etc., qui va là plutôt être dans le cadre du plan vélo avec, très concrètement, des pistes cyclables, des jalonnements, des panneaux, l'achat de matériel de sécurisation, etc. Donc, en fait, il y a vraiment ces deux volets. C'est-à-dire, il faut agir sur les comportements et pour agir sur les comportements aussi, sécuriser et créer, en fait, un territoire qui soit accueillant et qui soit qui donne envie tout simplement de le parcourir. Alors j'insiste du coup dès maintenant, qui donne envie de le parcourir à vélo, certes, mais nous le plan vélo, on l'a imaginé comme ceci, c'est comme un plan vraiment de mobilité douce. C'est-à-dire qu'on veut vraiment qu'on parle de vélo, mais qu'on parle aussi de marche, j'insiste dessus, et d'intermodalité. C'est-à-dire que l'intermodalité, c'est comment est-ce que je vais d'un point A à un point B en utilisant différents moyens de transport. Typiquement, pour aller à Paris, je vais prendre mon vélo pour aller à la gare de Soisy, je vais laisser mon vélo au parking Île-de-France Mobilité du champ de course de Soisy,
Bon, c'est d'abord le parking de Soisy, le précurseur.
Parking de Soisy, voilà, c'est pour ça que je vous regardais. Et après, derrière, je vais prendre le train H jusqu'à Gare du Nord. Et après, je vais prendre le métro pour aller là où je veux aller. Donc voilà, ça, c'est ça l'intermodalité, en fait. Et donc, du coup, nous, ce qu'on s'est dit sur le plan vélo, mais ce qu'on s'est dit sur le plan climat en général, c'est toujours pareil. C'est, on part d'un diagnostic, on essaie de faire le meilleur diagnostic possible et on part pas dans tous les sens. On essaie de vraiment d'adresser les problématiques qu'on a. Donc, nous, les problématiques qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de parents qui vont déposer leurs enfants à l'école en voiture, par exemple, oui. Ce qui crée des bouchons et ce qui crée des accidents au-delà de la qualité de l'air qui du coup se dégrade parce que les parents s'ils pouvaient, et ça c'est pas moi qui vous le dis, ce sont les professeurs avec qui j'échange, il y a beaucoup de parents, s'ils pouvaient déposer les enfants dans l'école, ils le feraient directement dans la classe.
Les commerçants nous disent que s'ils pouvaient prendre la baguette depuis la voiture. Voilà.
Sauf oui. Que, comme j'aime à le dire et comme on aime à le dire avec Corentin dans les ateliers qu'on va animer dans les écoles, si aujourd'hui les voitures ont pris en moyenne entre 80 cm et 1,20 cm, les enfants qui sont à l'école au primaire, ils font toujours la même taille. Les CP, ils font toujours moins d'1 mètre, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a régulièrement des enfants, et ça je suis désolé de casser un petit peu l'ambiance, mais on a régulièrement des enfants qui sont accidentés sur les chemins de l'école et notamment devant l'école. Parce que les voitures aujourd'hui sont trop grosses et que les gens ne voient pas les enfants qui sont en fait cachés par le pare-choc.
D'accord. Ouais.
Donc, et je vous dis ça encore une fois en faisant des ateliers, j'ai des enfants qui m'ont dit de même, oui, j'ai été renversé.
Oui.
Voilà.
En
donc,
effet,
ouais. Oui, donc c'est mm-hmm. Et c'est pas, oui, c'était pas il y a 6 ans, c'était il y a 2 mois.
Ça va au-delà donc de la philosophie de l'économie durable. Enfin,
exactement.
Voilà,
c'est pour ça que je vous dis, quand on fait ce genre de projet, en fait, on agit sur l'ensemble, enfin sur plein de paramètres. C'est-à-dire que nous, on va agir effectivement sur la question des émissions de gaz à effet de serre, de la qualité de l'air, mais on va aussi améliorer du coup la sécurité routière devant l'école. On va aussi faire en sorte d'accompagner les enfants vers une autonomie. Et un apprentissage des déplacements, en fait. C'est fondamental de se dire, et ça, je pense que autour de la table, on est tous d'accord. Quand on était jeunes, on allait la plupart d'entre nous à l'école à pied.
Ouais.
Et en fait, c'est des moments qui sont super importants parce que c'est des moments qu'on va passer avec nos parents, où on va discuter, où on va aussi passer avec nos amis, nos familles, nos frères et sœurs, etc. On va aller s'arrêter à la boulangerie justement pour s'acheter un pain au chocolat, etc. On va flâner dans le parc parce que on aime bien les oiseaux et puis que ça sent bon. Et en fait, ça aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas pour plein de raisons que je vais pas aborder maintenant. Mais qui sont aujourd'hui souvent des mauvaises raisons. Et donc en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, notamment avec les ateliers d'écomobilité scolaire, c'est de recréer un petit peu cette culture autour de l'écomobilité, parce que l'écomobilité, c'est fondamental, que la rue, c'est le premier espace de rencontre, que quand vous sortez chez vous, c'est important que les enfants aujourd'hui lèvent la tête, en fait, et voient, et soient capables de lire des cartes, de repérer les dangers, de les anticiper, etc. Et donc quand vous êtes dans la voiture et que votre parent vous emmène de la maison directement et vous largue dans la cour, en fait vous n'êtes pas du tout capable d'anticiper tout ça, vous n'êtes pas du tout face à ce type de problématique, et donc ça crée des enfants qui sont aujourd'hui ont un retard entre guillemets sur les questions de déplacement. Donc ça,
oui,
c'est vraiment
donc,
important.
Le but, c'est de faire que cette nouvelle génération, plus tard, applique les
tout à fait.
Comment les principes que vous allez leur inculquer.
Qui sont des principes que nous, on utilisait dans notre enfance, en fait. Ouais. Hein, c'est vraiment. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire sur le changement climatique, je reviens dessus à chaque fois, mais la transition énergétique, le développement durable, au final, la plupart du temps, c'est une amélioration de la qualité de vie. Hein. Si on revient sur des choses qui sont.
C'est sûr. Et en même temps, comme vous dites très justement, on est tous allés à pied à l'école, mais c'est nous qui amenons nos enfants en voiture. Donc, il y a un moment donné, il s'est passé quelque chose.
Il s'est passé plusieurs choses, ouais.
C'est
mais,
clair.
Mais effectivement, en tout cas, voilà, nous, on veut ça. Et je tiens à dire que l'agglomération Plaine-Vallée, sur ce projet, du coup, d'atelier d'écomobilité, a été lauréate des Talents du Vélo, qui est en gros la plus grosse association des collectivités locales pour le vélo. Et on a reçu au Salon des Maires 2024 le prix Innovation et Pédagogie pour ces ateliers d'écomobilité scolaire. Et juste pour vous expliquer très rapidement comment ça se passe, c'est des ateliers dans lesquels on va, en gros, parler d'écomobilité, parler de changement climatique dans les classes entre CE2 et CM2 dans les écoles du territoire. Ensuite, pendant une semaine, on les encourage, dans le cadre d'un challenge, à se déplacer pour faire les trajets domicile-école du coup autrement qu'en voiture. Et donc pour cela, on leur met à disposition un site internet avec une plateforme où ils ont un carnet qu'ils remplissent tous les jours. Ça permet de mettre en ligne automatiquement, en fait, toutes ces informations-là. Et du coup, on met donc école par école, les classes, en fait, dans chaque école, les classes sont en compétition. Et l'objectif, c'est de faire la classe la plus écomobile.
Bien sûr.
Voilà. Et donc tous les jours, ils vont remplir leur mode de transport. Plus ils sont écomobiles, plus ils ont de points. Moins ils sont écomobiles, moins ils ont de points. La classe, à la fin, qui a le plus de points, a gagné. Et donc l'objectif, c'est aussi de voir l'évolution sur la semaine. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un truc qui a très très bien fonctionné l'année dernière.
Et à quel niveau de classe vous vous adressez ?
Alors nous on a fait les CE2 jusqu'au CM2. Et après en fait, bah, pour des raisons assez simples, c'est qu'on estime que avant le CE2, on se voit pas d'encourager les enfants
petits,
forcément.
Oui.
Voilà, on préfère qu'ils soient accompagnés par des adultes. On préfère que voilà ce trajet-là se fasse. Doucement entre guillemets. Par contre,
ouais,
à partir
CE2, c'est 8 ans, 7 ans et demi, 8 ans. Donc il faut pas. Oui, c'est déjà, c'est pas très grand déjà. Hein.
Mais
par contre, c'est l'âge où on est très perméable au message.
C'est aussi pour ça qu'on y va.
Non, mais je veux dire, l'écolier, quand on veut faire passer des messages, il faut jamais négliger les CM1, CM2. Moi, à Soisy, CM1, CM2. Parce que c'est l'âge où les enfants écoutent. Après, quand ils sont au collège, ils commencent déjà à tout savoir. Bon, enfin, à imaginer tout savoir. Donc, ils écoutent moins. Alors que les CM1, CM2, ils écoutent. Et puis, à la maison, ils sont écoutés. Et même, on m'a rapporté des cas où, s'agissant, par exemple, du tri sélectif, c'était les enfants qui expliquaient aux parents ce qu'il fallait faire.
Mmh. Ah oui,
et qui se permettaient, c'était le monde à l'envers, de les réprimander quand ils ne se comportaient pas bien.
Mais je crois que ça va être le même cas. Ça va être la même, le
bon,
même
là,
exemple.
Après, il y a une question de sécurité aussi. Oui. C'est que quand ils sont trop petits, on ne va pas leur demander d'aller à l'école avec des vélos à stabilisateur.
Non, bien sûr.
Des vélos à roulotte.
Il y en a qui l'ont fait. Mais effectivement, nous, on ne va pas s'engager à le faire parce que c'est quand même la responsabilité de l'agglomération derrière. Et on ne veut pas non plus créer des dangers, en fait. Là-dessus, donc on préfère être sûr qu'ils sont en capacité de se déplacer. J'en profite pour dire que ces ateliers se font en collaboration avec l'association Mieux se déplacer à bicyclette, qui a plusieurs antennes sur le territoire, et notamment le président de l'antenne de Soisy sous Montmorency, Philippe Dos Santos, qui anime du coup les ateliers avec nous. Et il y a un gros travail qui est fait par lui sur la sécurité à vélo. L'objectif, c'est vraiment pas de les envoyer à vélo pour les envoyer à vélo, c'est de les envoyer le mieux préparé possible, avec gros travail sur notamment tout ce qui va être équipement et tous les comportements à adopter, sachant qu'en plus de ça, on a la police municipale, puisque l'agglomération de Plaine-Vallée a sa propre police municipale qu'elle met à disposition des communes, et donc du coup la chance qu'on a, c'est que cette police municipale, dans la plupart des communes dans lesquelles on fait les ateliers, propose aussi un permis vélo, un permis piéton. Donc il y a vraiment cette triple même certification en fait, et formation de notre côté, du côté du vélo et du côté de la police municipale pour la sécurité routière, pour être sûr que les enfants sont le mieux préparés possible. Donc ça, c'était un peu notre préfiguration du plan vélo. Ça a été le moyen pour nous de mettre le pied à l'étrier et de commencer à travailler ces questions-là, de acculturer aussi les communes, de montrer que ça pouvait avoir un intérêt pour elles. Et ensuite,
et
derrière,
puis aussi, je pense toujours à travers les enfants, impliquer les habitants hein, dans le projet de ce territoire.
Tout à fait, parce que de toute façon, c'est aussi eux qui vont faire le territoire de demain,
bien
c'est
sûr.
Eux qui vont le parcourir, qui vont vivre dedans. Même si je préfère quand même rappeler que les conséquences du changement climatique, elles sont d'ores et déjà à l'œuvre, et qu'aujourd'hui, je pense qu'on sera encore là, enfin en tout cas j'espère qu'on sera encore là aux horizons de 2030, mais là aujourd'hui on est à entre 1 et 2 jours de sécheresse sur le territoire. En 2030 on sera déjà à 4.
Oui,
à 4
oui.
ou 5. Et en 2050, potentiellement, on sera à 13. Voilà. Donc, je préfère le dire tout de suite. Hein, donc, c'est pas forcément des très bonnes nouvelles, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il existe plein de bonnes solutions par rapport à des mauvaises nouvelles, mais en tout cas, on a des très bonnes solutions.
Ouais, vous avez de la chance qu'on soit pas au Moyen-Âge, où vous aurez déjà arraché la langue.
Bah, voilà, je suis désolé. Et après, mais en même temps, on est obligé de dire la vérité. On est pas
avant
là
d'être brûlé vif.
Et par contre, du coup, pour revenir sur le plan vélo, donc le plan vélo, c'est effectivement une des actions phares. Du plan climat, on a décidé d'agir très très volontairement et dès le début sur le résidentiel et la rénovation énergétique, notamment en abondant sur France Rénov' et en mettant à disposition des habitants des permanences. Et ben là, on a agi du coup ensuite sur le deuxième secteur, donc les transports. On a lancé notre plan vélo qui a été officiellement lancé le 2 avril de cette année. Et donc là, l'objectif, ça va être de faire comme on a fait sur le plan climat, c'est-à-dire un diagnostic, donc le meilleur diagnostic possible. On va aller s'adresser aux communes, aux agglomérations voisines, à la région, qui va piloter ce qu'on appelle le RER vélo, le réseau vif avant, ça s'appelle comme ça. En fait, il y a le plan vélo du département du Val d'Oise. Vous avez tout ce qui va se faire aussi sur 93. On a parlé de comment est-ce qu'on fait pour rejoindre Paris. Moi tous les jours, je fais Soisy sous Montmorency Paris en récupérant les quais au niveau du Stade de France.
Mais, et donc vous mettez combien de temps
35 minutes.
Pour vous venez d'où
J'habite près de la Villette.
D'accord.
Ouais. Donc, en fait, pour être tout à fait honnête, mais encore une fois, on en revient à des choses qui sont toujours une amélioration, mais il faut passer un petit peu le cap de la barrière en fait mentale, oui. Et, etc. Mais moi,
malgré,
pour vous dire,
malgré la météo, qu'il pleuve, qu'il vente.
Ouais, la plupart du temps, ouais. Ouais. Après, je vais pas vous mentir, quand il fait.
Parce que
quand
ça
il,
peut être ça qui
quand
freine.
Il, quand il pleut des cordes et qu'on a un rendez-vous dans une radio et qu'on arrive trempé, c'est pas idéal. Donc voilà, il y a des choses où, sur lesquelles on s'ajuste. Mais après, en fait, on s'ajuste. Et c'est justement ce que je disais, c'est une question d'intermodalité. Et moi, ce qui m'a fait vraiment changer là-dessus, c'est une question de gain de temps, encore une fois. C'est une amélioration de mon quotidien, de ma qualité de vie. Au début, je venais en voiture. Oui. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, quand même, comme le disait M. Striano, si je veux être cohérent vis-à-vis de mes élus, si je veux être cohérent vis-à-vis de mes collègues, peut-être que ça serait pas mal que je commence à réfléchir à venir autrement. Parce que moi, je me disais, en voiture, je mets 25 minutes, sauf qu'en fait, je mettais jamais 25 minutes avec les bouchons.
Ouais, ouais.
Je mettais plutôt entre une heure et une heure et demie.
C'est un vol d'oiseau.
Voilà. Et en fait, le jour où j'ai d'abord commencé avec un vélo électrique, et après, je suis passé au vélo normal, mais au début, j'ai fait le vélo électrique, et le vélo électrique, je trouve, est un très bon moyen, justement, de. Pour mettre le pied à l'étrier de plein de gens qui n'ont pas forcément la volonté et l'envie, et je le comprends tout à fait, de transpirer quand ils vont au travail. Voilà. Et donc, du coup, là, je me suis rendu compte qu'en fait, je mettais avec le vélo électrique 35 minutes. Voilà, au lieu d'une heure, une heure et demie.
J'ai fait, bravo, bon, bah, écoutez, j'ai gagné une demi-heure. Félicitations d'avoir comme ça cet esprit d'exemple, hein, d'exemplarité.
Bah, on est obligé, en fait, si on veut emmener les gens avec nous, on est obligé de montrer l'exemple, parce que sinon, on est hypocrite et ça ne sert à rien.
Bien sûr.
Donc, donc voilà. Et après, encore une fois, j'insiste, c'est. Un gain en termes de qualité de vie. Moi, le soir, quand je rentre, je prends le canal et j'ai la chance de voir les cormorants, de voir les cygnes, de voir les canards, de voir les oies bernaches qui sont le long du canal, etc. Et moi, c'est des moments que j'apprécie et qui sont beaucoup plus agréables en termes de décompression que d'être dans les bouchons sur la A86 à 19h30.
Et voilà. Qui reprennent ce que vous disiez au début, améliorer sa qualité de
Exactement.
Vie, son bonheur de pouvoir profiter de son environnement.
Nous, le but du plan vélo, c'est vraiment de mettre à disposition des habitants du territoire tout ce qui fait la qualité de vie du territoire. On a vraiment la volonté, dans le cadre de ce plan vélo, d'aller toper en fait l'ensemble des points d'intérêt que nous on a identifiés. Quand je dis nous, c'est les élus, c'est les habitants, dans le cadre du projet de territoire. Et donc en gros, ça va être effectivement, bon, tout ce qui va être santé, on en a parlé tout à l'heure, mais je reviens sur le développement économique, les zones d'activité.
Jacqueline a répondu à l'enquête.
Bah, bravo.
J'ai répondu, merci. Oui, absolument.
Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit, mais du coup, je le dirai juste après. On a effectivement une enquête sur le questionnaire. Et donc, l'objectif du plan vélo sur le diagnostic, notamment, c'est de se dire, bah, comment est-ce qu'on fait pour que les habitants du territoire ou les gens comme moi qui viennent de plus loin, mais qui veulent aller travailler sur le territoire de façon à peu près écologique, puissent le faire en sécurité, etc. Et donc, du coup, on va avoir un gros travail de comment est-ce qu'on fait pour rejoindre les zones d'activité depuis les différentes gares et les pôles modales.
Alors, on a bien compris que vous allez insister sur les pistes cyclables, mais il reste quand même le problème des garages à vélo. Mmh. C'est prévu ?
En fait, quand vous développez un plan vélo, comme vous le dites très justement, c'est pas juste la piste cyclable qui va faire l'usage. C'est pas juste le fait qu'on va apprendre aux enfants à se déplacer qui va faire l'usage. C'est un écosystème. Mmh. Donc c'est un ensemble de choses. Donc ça veut dire travailler sur le stationnement, travailler sur la signalisation, travailler sur la sécurisation, sur l'apprentissage des comportements, parce que moi, comme j'aime à le dire aujourd'hui, à Paris, avec la multiplication des coronapistes, on a effectivement une explosion d'utilisation du vélo, mais derrière cette explosion, elle est forcément, elle se heurte au comportement des autres usagers de l'espace public.
Les cyclistes ne sont pas toujours... n'ont pas toujours un comportement exemplaire.
Ah, c'est justement ce que je suis en train de dire. Mais pour moi, c'est global. C'est-à-dire que pour moi, on est dans ce que j'appelle le Far West. Mmh. C'est un peu la conquête de l'Ouest. On en a pour 10 ans.
Surtout avec les trottinettes. Hein,
voilà, c'est ça. En fait, il y a plein de nouveaux usages. Mmh. Et donc, il faut que les gens s'habituent aux usages. Il faut que les pouvoirs publics arrivent à s'ajuster. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire, mais ça prend du temps, ça prend forcément toujours plus de temps que la société. Et donc du coup, l'objectif vraiment, et notamment avec le plan vélo, mais là, ça va être de travailler à la fois sur la formation, l'acculturation à ces nouveaux modes de transport, à ces déplacements, et ensuite la sécurisation avec la sécurisation des déplacements, la création de pistes cyclables, de marquages au sol, de panneaux, et bien évidemment, le stationnement et les services qui vous permettent d'utiliser votre vélo, parce qu'il y a le stationnement effectivement devant les gares, devant les commerces. Ça, pour nous, c'est fondamental, devant la forêt. En gros, on veut que les gens puissent aller à vélo où ils veulent. Mais en plus de ça, il faut aussi que derrière, ils puissent, s'ils ont besoin de changer une roue, de réparer le vélo, d'avoir un conseil, etc., ils aient un écosystème économique qui permet de les accompagner. C'est comme avec une voiture. Si vous n'avez pas de garagiste, vous faites
oui,
comment ?
Si on veut que ça prenne.
Exactement. Donc, comme vous l'avez dit très justement, en fait, le plan vélo, bah, ça prend. C'est vraiment un écosystème qu'on va créer. Donc, c'est pas juste utiliser son vélo, c'est pas juste apprendre comment l'utiliser, c'est aussi créer les conditions d'un usage qui soit serein.
C'est ça, d'où cette vision globale de ce projet.
Tout à fait.
Luc Striano, et si on parlait budget de ce projet ?
Ah, du projet de territoire ?
Oui.
Alors, c'est un budget.
Et son financement, peut-être aussi.
Alors, le financement, il est difficile aujourd'hui. On fait bien sûr des PPI, mais un PPI sur 10 ans, ça ne se fait pas. On a, en fait, sur ce projet, des dispositifs déjà existants et déjà financés. Et vous verrez que dans le libellé, il est souvent question de développer. Développer. On n'a pas fixé de budget, ni de budget plancher, ni de budget plafond, puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes une coopérative de communes et que tous les objectifs que nous nous sommes fixés seront traités, mais il y aura un ordre de priorité, et cet ordre de priorité, il sera naturellement étudié par les maires des 18 communes et ensuite déterminé par le conseil communautaire, les 61 membres. Et les choix d'investissement, il y aura des opérations
seront adaptées. Oui, oui.
Et donc aujourd'hui, dire on a une enveloppe globale de temps est un peu compliqué. D'autant que nous ne désespérons pas de l'avenir, le pire n'étant jamais certain. Et l'on peut imaginer que sur les années à venir, il y ait quelques dispositifs où nous soyons encouragés et quelques crédits qui soient affectés. Personne n'aurait pu imaginer, il y a 7 ou 8 ans, que l'État, pourtant gravement endetté, finance le plan vert qui a permis à nombre de communes, notamment dans ce département, de passer à l'éclairage LED pour l'éclairage public. Bon, je veux dire, ce sont des dizaines de millions d'euros qui ont été distribués, on peut employer ce mot, par la préfecture du Val-d'Oise et les 3 sous-préfets, au nom de l'État, aux collectivités. Personne n'aurait pu imaginer cela. Dans ce pays où on réagit souvent face à l'urgence, et donc aujourd'hui fixer un budget, c'est
compliqué. Très bien.
Et encore une fois, ce qui sera décidé le sera d'abord. Il y aura une pré-réflexion des maires, ensuite il y aura une validation par le conseil communautaire, et ce sera décidé par ceux qui seront responsables de l'exécution de ces priorités. Et aujourd'hui, je ne me sens pas capable de dire c'est ça qu'il faudra faire en 2032.
Bien sûr, je comprends. Je m'aperçois que ces 90 minutes sont passées très vite. On n'a même pas fait de pause musicale.
Mais en votre compagnie, on ne voit pas le temps passer, Madame la Présidente.
C'est réciproque, Monsieur le Président. Alors, Quentin Revert et donc Luc Striano, ce projet ne demande plus qu'à être traduit en actions concrètes pour devenir réalité. Y a-t-il des échéances ?
Oui. Oui, il y en a une tout de suite là. Comme vous l'avez dit effectivement, Jacqueline, il y a le questionnaire du plan vélo
qui est disponible
d'ores et déjà sur le site internet de Pleine Vallée. Donc, je vous invite à taper sur l'Oracle. Donc, l'Oracle est en Google, puisque ChatGPT a beaucoup plus d'empreintes carbone. vous tapez plan climat Pleine Vallée, vous allez trouver.
On n'est pas à la télé, mais c'est suivi jour par jour.
Donc, vous tapez plan vélo Pleine Vallée et vous allez trouver la page qui est extrêmement bien faite sur le site internet, qui de toute façon globalement est assez claire. Et donc dessus vous allez pouvoir remplir un questionnaire qui va vous poser plein de questions sur vos habitudes de déplacement et notamment vos habitudes de déplacement bien évidemment en lien avec la mobilité douce et la question c'est d'un peu de comprendre les freins, comprendre les inspirations aussi des usagers du territoire vélo et non vélo et j'insiste dessus, l'objectif bien évidemment avec ce questionnaire c'est de récupérer un maximum d'informations, un maximum de retours d'expérience pour pouvoir avoir un plan vélo qui soit le plus adapté à ces questions là et j'en profite pour dire que pour encourager les gens à participer, les élus ont décidé de mettre 2 vélos à gagner sur le questionnaire. Donc non seulement vous remplissez le questionnaire qui vous prendra 5 minutes, mais en plus de ça, vous avez 2 chances de gagner un
beau vélo.
De ce que j'ai vu des réponses, ça stimule les participants.
Et ça stimule tout à fait.
Il y a un souhait qui a été, je pense, quasiment unanime des élus au sujet de ce plan vélo, c'est que bien sûr, nous continuons à développer le vélo loisir, le vélo que l'on fait le week-end, etc., mais que l'on mette un peu les bouchées doubles sur le vélo utile.
Oui,
c'est-à-dire,
bien sûr.
Et en prenant comme exemple, pas comme modèle, personne n'est un modèle. Non. Alors, un exemple, en prenant l'exemple de M. Quentin Revers, que ce soit, alors peut-être pas forcément sur tout le trajet, mais nous croyons beaucoup, Quentin l'a dit, au garage à vélo à proximité des gares, qui soit sécurisé. Alors on est en négociation avec Île-de-France Mobilité qui reprend l'abri vélo de 96 places sécurisées. Et on a bien vu l'évolution. On a fait cela, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, en 2014. Au début, 96 places, on avait une dizaine d'inscrits.
Oui.
Aujourd'hui, on est ce que dans les compagnies aériennes, on appelle de l'overbooking, c'est-à-dire qu'on a 120 inscrits, puisqu'il y a un peu de foisonnement, pour les 96 places. Donc on a bien vu. Et ces personnes-là, elles posent leur vélo, elles prennent le train. Et je crois que ce mode est quand même intéressant, plus que de voir les gens monter avec leur vélo aux heures de pointe, prendre 3 places, parce que quand on monte avec un vélo, on prend 3 places, accessoirement. On doit être financé par les teinturiers blanchisseurs parce que on salope consciencieusement l'imperméable du voisin. Et donc ce dispositif de relais me semble à développer et je crois que c'est là-dessus. Et puis il faut avoir l'honnêteté de dire que on est un peu fonction du temps. Déjà il y a la motorisation, l'assistance électrique qui facilite les choses, puisque ça nous a franchi du relief accidenté que nous avons, et ça remet un peu les habitants égaux devant le vélo. Il y a ceux qui ont des gros mollets, ceux qui ont des petits mollets. L'assistance électrique permet de remettre tout le monde au même plan. Alors ça veut dire qu'il faut avoir des parcs à vélo particulièrement sécurisés, parce qu'un vélo électrique, ce n'est pas gratuit.
Bien sûr.
Et il faut des arceaux aussi spécifiques.
Et puis, on doit aussi à l'honnêteté de dire que, bon, on voit bien, quand il fait beau, on prend le vélo. S'il y a du vent, on prend encore le vélo. Mais s'il y a du vent et de la pluie, on va plutôt prendre la voiture.
Oui, c'est ce que je disais, oui, bien sûr.
Moins compliqué, on prend l'autobus s'il y a de la place dans l'autobus. Mais le multimodal, hein, c'est ça qui...
L'intermodalité, oui.
C'est ce qu'il faut. Enfin, je pense que c'est l'avenir parce que ça ne nuit pas à la capacité des transports en commun. Quand vous montez avec votre vélo, vous nuisez à la capacité d'emport.
On va devoir se quitter parce que l'émission se termine. Quentin, juste donc cette échéance, il y a ce questionnaire.
Oui.
Et puis très vite.
Très vite, il va y avoir des ateliers de concertation auxquels on va convier la population. Comme je vous l'ai dit, nous l'objectif c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table. Donc on a prévu à la base, on avait prévu 2 ateliers et en fait devant le succès entre guillemets auprès des communes et auprès de tout ça, on s'est dit on va faire 5. Donc on va avoir 5 ateliers de concertation. Il y en a 2 qui seront dédiés spécifiquement aux habitants. Et après, on va aussi aller travailler sur les questions de développement économique, de culture, de tourisme. J'en ai pas parlé, mais effectivement, il y a cet usage aussi du vélo loisir. Donc on va essayer de travailler sur l'ensemble des thématiques lors de ces ateliers-là. Et on a d'ores et déjà un atelier le 26 juin, merci Corentin, qui sera normalement prévu sur le territoire de Plaine-Vallée. Je vais confirmer le lieu, qui est normalement là, mais bon, on va attendre d'être sûr. Mais en tout cas, le 26 juin, normalement, on devrait avoir le premier atelier, ou en tout cas, un des premiers ateliers de concertation à destination du public. Et on attend, bien évidemment, du coup, les habitants, les assos, et puis les gens qui travaillent aussi sur le territoire.
Les gens qui sont impliqués.
Exactement.
Bien sûr, bien
exactement.
Sûr.
Parce que des gens comme moi qui n'habitent pas, mais qui travaillent sur le territoire.
Bien sûr. Alors moi, je vous propose, parce que c'est un projet qui est vraiment intéressant hein, pour notre territoire. Je propose qu'on se retrouve dans quelques mois pour faire un bilan de cette étude et puis voir l'avancement de ces actions concrètes. Hein, on l'a encore dit pour que ce projet devienne réalité.
Avec grand plaisir.
Merci infiniment de votre présence
merci
ce matin
à vous,
chez IDFM Radio.
Jacqueline, merci présidente et puis merci à Christophe parce que la qualité du son va être irréprochable comme d'habitude.
Complètement.
Merci beaucoup.
Merci à
merci
tous.
Merci en tout cas d'avoir été nos invités. Et puis voilà, vous êtes toujours les bienvenus pour nous tenir informés de l'avancement de cette gageure dont nous vous souhaitons toute la réussite. L'économie en direct est terminée. Retrouvez son replay sur le site idfm98.fr. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci à tous de votre fidélité. Merci Christophe pour la technique. À mardi pour un nouveau rendez-vous. Belle journée et bon week-end.